Un mot sur Marine Le Pen quand même, hein. Elle risque peut-être de passer à côté des prochaines élections en fonction des résultats, vous le savez.
Elle has been,
non, mais ça, c'est ton avis. Mais selon vous, si elle est disqualifiée par la justice pour se présenter au présidentiel, je vous avais posé la question de réfléchir là-dessus. Est-ce que pour vous, c'est une injustice ?
En tout cas, ça va être ressenti comme ça,
ah oui,
comme tel.
Non, mais c'est, je te demande pas si ça a été ressenti ou si ça va être ressenti. Je te demande ton avis. Injustice ou pas injustice ?
Mon avis, il est que si elle a mis le doigt dans le pot de confiture, eh bien, elle doit être punie. Mais par contre, c'est sûr que ça ne va pas forcément servir...
Évidemment, voilà. Ceux qui sont pour Marine Le Pen vont dire...
Elle va passer pour un martyr, et c'est dommage. Alors qu'effectivement, si elle est prise le doigt dans le pot de confiture, ben, elle mérite d'être jugée et punie, hein, c'est tout. Hein.
Ouais. Bon, j'ai confiance en la justice française quand même, parce qu'il y en a tellement d'autres qui sont pires dans d'autres pays, que je suis... Voilà, c'est... Ce qui m'ennuie en France...
C'est la justice européenne qui la juge.
D'accord, ok. Bah, tu vois, je ne connaissais pas ce détail.
J'imagine. C'est au niveau de l'Europe.
Non, elle a fait une bêtise en Europe, mais c'est la justice française qui l'a.
C'est la justice française.
Oui, d'accord. Ok. Ça moi, je pensais que c'était au niveau de.
Moi, il me semble que c'est français. Enfin, en tout cas, il y a une étape qu'on oublie toujours trop. C'est celle qui fait que tu te retrouves devant le juge. Parce que les juges, ils font, de mon point de vue, ils font un peu ce qu'ils peuvent. Et je pense que ce qu'ils font. Ben, ils le font en leur âme et conscience. En revanche, celui qui t'amène devant le juge, celui ou celle qui t'amène devant le juge, il a une grosse responsabilité. Alors, c'est le juge d'instruction, c'est le procureur. Ces gens-là, moi, j'ai du mal à leur faire complètement confiance. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression, s'agissant de Mme Le Pen, qu'elle est un peu comme le gars qui va perdre son permis parce qu'il s'est fait choper à 150 à l'heure, alors qu'il y en a plein qui ne se sont pas fait choper par le radar. Ça me gêne. Mais après, quand t'es devant le juge, qu'elle soit jugée... Enfin, s'il juge qu'elle est coupable et qu'elle prend de la prison, c'est sûr que ça va être compliqué pour les Français, pour certains en tout cas, mais c'est la vie, c'est comme ça. Elle a fait des bêtises, elle doit payer. Parce que si elle ne paye pas... Alors là, c'est grave, parce que si elle avait vraiment fait des bêtises et qu'elle s'est trouvée là au mauvais moment, au mauvais endroit... Alors là, ça
elle paiera de toute façon. Elle paiera de toute façon, mais jusqu'à l'inéligibilité, ça c'est pas sûr. Et ce sera pas la première. Je te donne la parole. Il y en a d'autres qui ont été inéligibles. Je parlais du maire de Bordeaux, par exemple.
Juppé,
il a été pendant quelques années. Il y en a plein d'autres.
Il n'avait pas la même casquette.
Ce qui est quand même intéressant, c'est ce que tu disais sur le fait qu'il faudrait pas que elle soit condamnée, alors que plein d'autres l'ont fait et que ça n'a pas été le cas. C'est que ce sera pas le premier cas de figure. C'est-à-dire que le MoDem. Alors, pas Bayrou nommément, mais
t'as raison.
Ont été condamnés pour des faits similaires. Donc déjà, ça pose un précédent qui fait que c'est pas, entre guillemets...
Mais Mélenchon n'est pas tout blanc non plus. Hein.
Oui,
il y a eu des enquêtes, mais jamais de condamnation.
Mais il n'a pas été condamné. Donc là, on parle de vraie condamnation. C'est vrai que le MoDem a été condamné. Et il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas condamné. Ce qui l'inquiète, c'est le fait de ne pas pouvoir se présenter.
C'est ça, puis surtout, c'est que maintenant, il y a un dispositif, je veux dire, légal en France, sauf décision contraire des magistrats, qui fait que quand il y a certaines peines qui sont décidées, il y a une inéligibilité qui est automatique.
Ouais.
Donc je dirais que ça enlève aussi une responsabilité aux magistrats quand même. C'est pas, entre guillemets, eux qui vont aller décider l'inéligibilité. Eux, ils peuvent décider éventuellement de... retirer ce volet-là, mais la loi prévoit que ce soit automatique. Donc après, je veux dire, la justice, il faut qu'elle puisse s'appliquer. Le problème, c'est que dans tous les cas, on accusera la justice d'être politique, soit d'un côté, soit de l'autre. Et c'est ça le problème, c'est qu'on pense plus la démocratie avec des faits, on la pense plus qu'avec des opinions. Et ça, c'est un peu inquiétant quand même.
Alors, on va terminer l'émission avec une dernière chose, je voulais quand même en parler, le Mercosur. Parce que Bruno, je voudrais avoir ton avis. Bon, votre avis aussi.
Oh,
à
le
vous.
Pauvre.
Mais non.
Finir là-dessus, c'est moche.
On essaie.
Surtout pas pour Bruno, c'est compliqué.
Non, mais voilà. Enfin, moi, c'est ce que je vous ai expliqué donc, dans les messages que l'on s'est échangés. Je trouvais qu'on en faisait quand même des caisses pour cet accord.
Des caisses, il est fort quand même.
Et qui va représenter une baisse donc de grosso modo 0,7% de la production bovine de l'Union européenne. Je ne parle pas de la France, de l'Union européenne. Et on a tendance à oublier depuis le début de ce sujet Mercosur, c'est que ce n'est pas un accord unilatéral, c'est-à-dire que ça va d'un côté et ça vient de l'autre. Mais nous, depuis le début, on entend ça vient de l'autre, mais ça vient pas de ça part pas de nous. Non mais on est d'accord, il y a c'est un accord.
C'est sûr qu'aujourd'hui le Mercosur il tombe à un moment qui est pas très pas bien. Enfin, ça fait longtemps qu'on en parle du Mercosur et que tu as raison, il y a des échanges dans les deux sens. Je crois que ce qui met surtout en colère les producteurs français, c'est que on va.
C'est agriculteur.
Les producteurs, les oui, producteurs. Les agriculteurs. Mmh. Oui. C'est qu'on va importer des denrées qui ne correspondront pas au oui. statut sanitaire et au niveau d'exigence que l'on a en Europe. Mmh. Et c'est ça qui pose vraiment problème. Parce qu'après, tu as raison, dans le Mercosur aussi, moi j'étais il y a très peu de temps en Bourgogne, les gens de Bourgogne nous disaient, mais nous, on a intérêt à exporter du vin.
Le vin et les spiritueux.
Les spiritueux, le cognac, l'armagnac et tout. C'est aussi, ça fait partie aussi de l'accord du Mercosur. Mais ce qu'il faut, c'est là où les Français devraient être intransigeants, c'est dire, ben nous, aujourd'hui, on veut manger de la viande bovine française qui est indemne d'hormones. Ben, on sait que les Brésiliens et les Argentins continuent d'hormoner leurs animaux. Mmh. Donc c'est ça qu'il faut. Il faut qu'on ait tous les mêmes règles. C'est exactement pareil avec nos amis espagnols quand ils nous envoient des pommes qui n'ont pas les fruits qui n'ont pas le même statut sanitaire que nous en France. C'est là-dessus qu'il faut. Que les gens se battent. Et puis, il ne faut pas oublier aussi qu'on va rentrer dans une période de campagne électorale des élections de chambre d'agriculture. C'est qu'aujourd'hui aussi, tout le monde veut un peu montrer son t-shirt. Mmh. Bon, voilà. Mais le Mercosur, il n'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain.
Mais non, bien sûr.
Par contre, c'est quand même bien aussi qu'on ait un petit peu mis notre veto pour dire qu'on n'était pas prêt à accepter n'importe quoi.
Oui, mais on a beau mettre notre veto, il aurait fallu être, je crois, 3 pays. Hein, au niveau de l'Union européenne ou 4 pays ouais. à être contre pour que ce soit pas voté.
Mais on peut aujourd'hui le marché, je finis, le marché il est mondial et de toute façon on peut pas on sait très bien que chaque fois qu'il y a une mesure qui est prise, par exemple je vous prends les voitures chinoises que l'Europe avait décidé de taxer, aujourd'hui la conséquence elle touche directement les producteurs de porc parce que ils veulent cesser leurs importations de porc alors que nous on fait du dégagement de marché sur la Chine. Mmh. Donc on est obligé d'avoir des accords oui. unilatéraux et mondiaux qui font que un coup ça arrange les autres, un coup ça les
oui. Sur cet aspect-là, je suis d'accord avec Bruno. C'est il fallait des mesures miroirs pour équilibrer au niveau des normes sociales et environnementales, ça c'était obligatoire. Mais sur ce dossier, quand même, le vrai problème, c'est que ça illustre deux faiblesses, quoi. C'est la faiblesse française et la faiblesse européenne.
Oui.
C'est faiblesse européenne parce qu'on est incapable d'amener nos normes sur le sujet, et faiblesse française, mais ça c'est pas nouveau, hein. Mais dans l'Union européenne, parce qu'on est quand même le deuxième pays le plus peuplé de l'UE, et on est incapable d'imposer un minimum nos conditions. C'est-à-dire que notre commissaire français Thierry Breton s'est fait limoger séance tenante par von der Leyen, on n'a rien dit. Le Mercosur, ça passe comme ça. Et que c'est un traité qui est quand même suffisamment engageant, qui devrait être ratifié par les parlements nationaux. C'est pas un traité qu'on peut faire par-dessus la jambe.
On est tout à fait d'accord, mais on peut comprendre aussi qu'il y en a certains qui peut-être aient eu des postures, hein, peut-être que la France a eu des postures, parce que je regardais un petit peu tous les chiffres et en textile habilement, hein, donc qui correspond donc à toute l'Europe, on va exporter. On va augmenter les exportations de 311 à 424%. Donc on peut imaginer qu'effectivement le 0,7% de production bovine, ben, y en a certains qui en ont rien à faire, en sachant que de l'autre côté, ils vont pouvoir se gaver sur le textile, l'habillement, les vins et spiritueux, c'est pareil, hein, ça va largement augmenter.
Sur le textile, il faut voir quand même, parce que 311%, on n'a pas quand même une énorme production de textile.
C'est vrai qu'on part aussi très bas.
311% de combien, mais...
Je ne parle pas de la France en textile, hein, je parle de... L'Europe.
Ça ne me gêne pas qu'il y ait une posture de la France, quoi. Je veux dire, on est le deuxième pays le plus peuplé. La présidente de la Commission européenne ne peut pas marcher sur la vie de la France comme ça. Donc, quitte à ce qu'on fasse de la posture, je veux dire, c'est pas un problème. Sur un texte, un accord aussi important, mais ça révèle tout un tas d'autres choses, hein. Le cas du commissaire européen, c'est exactement le même sujet, où on se fait imposer notre commissaire européen par la présidente de la Commission. Ça, je veux dire, c'est pas acceptable, c'est pas entendable. Alors, ça date pas de cette année, hein. C'est... Petit à petit, c'est un lent processus. Manque d'alliés en Europe, on l'a déjà connu. Pendant la crise financière face à Angela Merkel, et voilà. Mais la France devrait avoir une réflexion géopolitique, géostratégique beaucoup plus importante, et sur le continent européen et en dehors, c'est-à-dire aller chercher de nouvelles zones d'influence, aller chercher de nouveaux partenaires qui ensuite se traduisent automatiquement par des débouchés économiques, des nouvelles filières d'exportation.
La situation de la France aujourd'hui, le flou un petit peu gouvernemental qu'il y a aussi, nous fragilise aussi au niveau européen quand même. Hein.
Ouais, ça date pas d'aujourd'hui. La fragilité française, ouais. Elle date de longtemps en arrière. Mmh. C'est structurel dans l'Union européenne, mais on devrait chercher à combler ça et à travailler pour changer la donne, mais c'est pas dans cette direction-là que ça part.
Tu voulais rajouter un truc, Pierre-Louis ?
Oui, je suis d'accord avec beaucoup de choses qui ont
été dites. Eh bien, merci, Pierre-Louis.
Tu vas couper ce que je veux dire. Enculé, alors, lui. Non. Non, je voulais dire un truc que tout le monde sait, mais on l'oublie, parce que quand on est en France, on est tellement dans l'idéal, c'est que ce que l'on veut vendre aux autres pays, avec le pouvoir de la deuxième, du deuxième pays le plus peuplé de l'Europe, soi-disant cinquième puissance internationale.
Septième.
Voilà, bon, dégringole. Enfin, c'est déjà bien. Hein.
Oui, c'est
déjà
bien.
On ne sait plus combien il y a de pays dans le monde, mais c'est déjà très, très bien. Sauf que ce n'est pas parce qu'on est très, très bien placé dans ces choses-là que ce que l'on dit est entendable et audible. Parce qu'il y a 30 ans en arrière, quand on pensait encore, et encore 30 ans, peut-être, oui, un peu plus même, 35 ans, 40 ans en arrière, quand on pensait encore que le communisme pouvait être une idéologie qui allait remplir la planète et que finalement tout serait étatisé, même si on s'en rapproche un petit peu, mais ça ne porte pas ce même nom, on pouvait encore avoir dans le discours et dans les objectifs de l'idéologie de faire bien, que les hôpitaux aient de l'argent, qu'on produise des choses sans produits chimiques, sans hormones, qu'on mange sain, qu'on fasse attention à tous nos salariés, etc. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus.
Oui.
Mais il n'y a plus que nous qui sommes d'accord. et ce n'est pas très, très bandant pour les autres, parce que comme il n'y a plus que nous qui sommes d'accord et qu'on est de moins en moins, les autres, eux, ils pensent quoi ? Compétitivité.
Ils
pensent qu'à ça. Mais même les euros.
C'est ce que pense l'Europe aujourd'hui.
Ça. Mais oui. Mais pourquoi ils pensent ça ? Parce qu'en fait, ils avaient un arbitrage à faire. Qu'est-ce qu'on fait ? On suit les sages français. Vous avez remarqué, j'ai souvent dit ça. Peut-être un truc psychologique là-dedans. On suit les plus sages, on suit les Français, parce que c'est vrai que c'est un modèle de vertu quand même. Ils s'alourdissent leur sac, ils n'ont pas peur. Hein. Mmh. Ils se mettent des normes de malades, même des normes à nous, que nous, on a inventées au niveau européen. Ils font plus ! Ils ont des charges sociales comme c'est même pas permis ! C'est des fous ! Mais quand même, qu'est-ce que c'est beau ! On les suit, on les suit pas. Puis de l'autre côté, t'as les Américains, les Russes. Ils disent, bon, alors, eux, c'est des étrangers. Bah, c'est pas grave, tu les payes pas, tu les fais travailler. Eux, ah bah, ils ont demandé à rentrer dans notre pays aussi. Allez, c'est pas grave, c'est dur pour eux, ça va être dur pour eux. Non mais, enfin, pardon, je saurais pas tout dire tellement la caricature me manquerait, puis je suis pas quelqu'un qui caricature trop, mais en fait les autres ils ont décidé non, il faut qu'on soit bon, si on veut vendre il faut qu'on soit bon, et pour être bon il faut que ce soit pas cher et mieux que les autres. Ben là il n'y a que des politiques qui visent à ce que les entreprises soient compétitives pour que ça fonctionne. Alors j'ai envie de dire, c'est quoi qui serait bien pour la France? C'est qu'on devienne comme les autres, qu'on prenne le chemin de la compétitivité à tout prix au risque de perdre nos idéaux, ou qu'on reste comme ça? Ben moi, je terminerai par ce par quoi j'ai commencé. C'est le cap et l'objectif, c'est ça qui est important, sachant qu'on ne l'obtiendra jamais. Hein.
Ouais.
C'est si on continue comme ça, eh ben on sera fiers de nous, mais on ne sera plus les septièmes dans quelques années, sera les derniers, et on n'aura plus les moyens même de nos objectifs.
Soit
on se lance dans la compétitivité, dans la compétition, et là, advienne ce qu'il advienne, parce que ce n'est pas sûr qu'on soit les premiers, donc on va prendre des coups aussi. Donc dans les deux cas, ce n'est pas rigolo, mais il faut savoir ce qu'on veut.
Mmh. Notre prochain président s'appellera peut-être Raymond Trump, à savoir. C'est sur ces bonnes paroles que l'on va se quitter. Merci beaucoup, Élie Cordier, merci d'avoir participé à notre coq à l'âne. Merci Bruno, merci Pierre-Louis.
Merci.
Ça a été un plaisir de vous recevoir une nouvelle fois. On se souhaite une bonne année, hein, les enfants,
bonne année,
se retrouvera maintenant l'année prochaine. Allez, bonne année à tous et à l'année prochaine.